Le festival Lettres d'automne, c'est du 23 novembre au 6 décembre. L'inauguration, c'est mercredi au théâtre Olympe de Gouges à Montauban. Chaque semaine, Maurice Petit, accompagné de François-Henri Soulier, nous présente un des invités de ce festival. Alors aujourd'hui, eh bien, il s'agit de l'invité principal, Sylvie Germain.
Il y a plusieurs années que j'espérais un jour pouvoir recevoir Sylvie Germain comme invitée principale à Lettres d'automne. Je l'avais rencontrée plusieurs fois, brièvement. J'avais cru comprendre qu'il y avait de sa part un intérêt. Mais enfin, cette année, ça a enfin pu se faire, parce que Sylvie Germain est quelqu'un de très occupé et qui bouge beaucoup de par le monde, soit à donner des conférences ou des rencontres autour de différents thèmes ou de ses œuvres, etc. Donc cette année, elle a fini par accepter d'être avec nous pendant ces deux semaines. Et en même temps, parce que ça c'est le principe de l'aide d'automne aussi, de travailler avec moi plus particulièrement en amont, quasiment depuis un an, puisqu'on crée une exposition donc autour de son œuvre, et créer une exposition autour de l'œuvre, ça veut dire passer des heures et des heures avec l'écrivain.
J'ai tenu à ce que dans ce festival, il y ait des artistes de domaines différents. Donc il y a un musicien, il y a un peintre, il y a une philosophe, il y a des gens différents, il y a des romancières, je n'ai pas voulu limiter qu'au roman.
Je considère Sylvie Germain comme une des grandes, grandes romancières de ce temps. Quelqu'un qui n'a peur ni du côté baroque de son œuvre, ni des excès parfois dans l'imaginaire de son œuvre, qui a un style absolument époustouflant, qui a une diversité d'inspiration qui m'a toujours assez stupéfait, devant lequel j'ai toujours été assez admiratif. Enfin bref, son enfance a été très très buissonnière. Son père était haut fonctionnaire, sous-préfet, puis d'autres postes de ce genre. Donc elle a passé son enfance dans des lieux très divers en France. Ça a commencé dans le Berry, ça a continué dans le Morvan, la Corrèze, la Lozère, la Lorraine, enfin bref. Elle se pose enfin pour faire de longues études à Paris, à la Sorbonne. Et puis, après une agrégation de philosophie, elle a suivi les cours, elle était élève d'Emmanuel Lévinas à la Sorbonne. Après cette agrégation et divers concours, elle est embauchée au ministère de la Culture. Elle était très contente à ce moment-là, l'idée de travailler au ministère de la Culture. Mais au bout de 6 mois ou d'un an, quand elle s'est rendue compte que son poste consistait essentiellement à donner des coups de tampon sur des dossiers, elle a pensé qu'elle ferait peut-être mieux d'aller voir ailleurs et de faire autre chose. Mais enfin, je dis d'aller voir ailleurs, c'est le cas, puisqu'elle était déjà passionnée par toute la culture des pays d'Europe de l'Est. Et elle est partie vivre à Prague au moins 4 ans à ce moment-là, où elle a enseigné la philosophie, puis elle est revenue en France, et là, elle a décidé, une fois pour toutes, c'est des fins des années 80, elle a décidé de ne faire que cela, de se consacrer à l'écriture, de ne pas chercher d'autres occupations, y compris économiques. Et donc, voilà, elle est écrivain et uniquement écrivain, avec tous les bonheurs et toutes les difficultés que ce genre d'exercice suppose. L'apparition de son premier livre, je le raconte parce que on ne croit plus beaucoup à ce genre d'histoires et pourtant elles sont vraies. Elle avait écrit une série de nouvelles qu'elle a envoyées à divers éditeurs, par la poste tout simplement. Et Roger Grenier, directeur littéraire chez Gallimard, lui a demandé de venir le voir. Tout simplement pour lui dire que ses nouvelles étaient très intéressantes, mais que visiblement, elle avait un souffle qui n'était pas fait pour des nouvelles, et qu'elle ferait mieux d'écrire un roman et qu'elle vienne le revoir à ce moment-là. À ce moment-là, elle lui a dit que c'était pas la peine qu'elle vienne le revoir. Elle avait un roman tout prêt dans sa serviette, qu'elle lui a remis, qui était donc le premier ouvrage écrit à ce moment-là, qui était le Livre des Nuits, que Roger Grenier, après lecture et après passage au comité de lecture, a immédiatement publié. Et le Livre des Nuits, 84 je crois, a connu tout de suite un très gros succès, puisqu'il a reçu je crois 6 prix, suivi l'année d'après par Nuit d'Ambre, puis par Jour de Colère, etc. etc. Et c'était parti. Et quand elle était à Prague, elle a écrit Jour de Colère à Prague, mais elle a aussi écrit ce qu'on appelle la trilogie pragoise, c'est-à-dire 3 récits qui se situent à Prague ou en Tchécoslovaquie.
On dit trilogie parce que j'ai écrit 3 livres liés à Prague. En un mot, c'est-à-dire que comme j'ai habité assez longtemps à Prague, quand même 7 ans, et qu'avant même j'y allais assez régulièrement, bon, parce que j'étais liée à quelqu'un là-bas, ce qui fait qu'avec le temps, quand vous habitez longtemps dans un lieu, ben, il y a un renversement presque de la chose, où il y a un peu fusion, c'est-à-dire le lieu finit par vous habiter. Il est arrivé un moment qui était en fait vers la fin, tout à fait l'extrême fin de mon séjour, et où je crois j'étais assez imprégnée, pénétrée par certaines impressions liées à Prague, certains esprits du lieu, entre guillemets. J'étais vraiment suffisamment imprégnée pour que ça me vienne tout à fait naturellement de situer effectivement un récit et deux romans, même un qui a été écrit après mon départ, à mon retour en France. Mais bon, Prague me collait aux semelles et au cœur. Et je crois que c'est lié à ça. Si j'avais vécu dans une autre ville, bon, c'est vrai que Prague est une ville d'une grande densité sur le plan de l'histoire, de la beauté, des œuvres architecturales et autres, donc ça semble d'autant plus évident. Mais vous voyez, il m'a fallu vraiment des années où j'habitais là-bas, où j'étais vraiment liée à la vie des gens de là-bas. J'étais là-bas en plus avant, pendant et après les événements. Et tout ça a fini par déposer suffisamment d'impressions, d'émotions, de sensations, d'imaginaire, etc. Et aussi un minimum de connaissances de l'histoire du pays et de la ville pour que ça passe presque naturellement dans l'écriture.
Qui va là ? Et si telle était la question initiale qui abruptement se pose, s'impose à tout lecteur ouvrant un livre et s'apprêtant à s'aventurer dans les méandres d'un texte. Qui donc est dans ces pages? Qui se tient en amont de ce livre? Qui va au fil des lignes? Qui parle dans ces phrases? Qui va là? L'auteur et ses personnages se trouvent interpellés. Mais l'interpellation a commencé bien avant déjà. Dès que l'auteur a convoqué ses personnages, ou plutôt, dès que les personnages encore informes, innommés, incertains, s'en sont venus solliciter l'auteur, quérir son attention et provoquer en lui le désir, la curiosité, le tourment. Car d'où provient au juste l'initiative? De l'auteur ou des figures qu'il met en forme, en situation, en scène?
L'auteur est peut-être bien le premier à lancer cette interrogation. Qui sont ceux-là, celles-là, qui rôdent aux confins de ses songes, de sa mémoire, et qui soudain s'acheminent dans ses pensées, en soulevant sur leur passage un poudroiement de clair-obscur, de chuchotis et de soupirs, et arpentent son imaginaire d'un pas toujours plus vif et impérieux? D'où viennent-ils? Qui les envoie? Que veulent-ils? De quelle étoffe sont-ils faits? De quelle encre bruissent-ils? De quel corps sont-ils les ombres projetées? À défaut de trouver la réponse, qui d'ailleurs lui importe peu, tant prime en lui le désir de donner texture, voix et mouvement à ces ombres diaphanes, l'auteur déplace la question, en écrivant, en se risquant dans l'inconnu, donc en se livrant à l'imprévu. Et le lecteur, éventuellement, prend le relais de la question, la redéplace à sa manière.
Qui va là?
Face à toute œuvre, qu'elle soit littéraire, plastique ou musicale, tout comme à l'intérieur de toute œuvre en train de se créer, se lève cette interrogation entre surprise et trouble.
Qui va là?
Face à toute personne rencontrée, à tout visage, qu'il soit d'un proche ou d'un passant, d'un familier, d'un étranger, se formule cette demande, entre étonnement et inquiétude.
Mais qui va là?
Face à soi-même, soudain, frappé, au détour d'un instant par la flagrance et par l'inévidence de sa propre existence, d'un même élan surgit en force cette question entre stupeur et grande alarme.
Qui va là face à la mort? Le questionnement monte à l'aigu et vibre à l'infini, entre mystère et effroi. Le petit texte que nous venons de lire est extrait d'un essai, d'un recueil intitulé « Céphalophore ».
C'est entre la fiction et l'essai, une sorte de un peu méditation libre sur ce que c'est aussi que l'acte de création. Et c'est un texte, un livre qui n'a pas tellement marché parce qu'il a un peu dérouté, je crois.
Autour de l'œuvre de Sylvie Germain, Nous avons donc programmé une dizaine de rencontres et débats. Alors, soit des rencontres autour de l'œuvre même de Sylvie Germain, soit des rencontres autour d'œuvres d'auteurs ou d'artistes qu'elle-même a choisi d'inviter. Et également cette lecture ou lecture-spectacle de textes de Sylvie Germain. On a choisi une partition extrêmement diverse, une promenade dans l'œuvre qui aille du début jusqu'au dernier, c'est-à-dire hors champ, où il y aura des extraits qui seront lus au cours d'une rencontre avec François Scioli.
Voilà, lettre d'automne spéciale Sylvie Germain. Ça a déjà commencé par des rencontres dans les lycées, dans quelques lieux comme ça. La vraie inauguration, c'est au Théâtre Olympe de Gouges, demain soir, à partir de 18h.